Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour l'émission européenne de Radio Judaïka, RCF Alsace, réalisée avec le Centre Europe Direct de Strasbourg. Alors le 21 juillet dernier, le président de la République italienne, Sergio Mattarella, a dissous le Parlement et convoqué des élections parlementaires anticipées en Italie, qui auront finalement lieu le 25 septembre prochain. Ces élections ont été provoquées par la chute du gouvernement Draghi, fin juillet, ancien président de la Banque Centrale Européenne qui dirigeait depuis février 2021 un gouvernement d'union nationale. Ces élections suscitent de nombreuses interrogations, tout d'abord parce que la plupart des sondages prédisent une victoire de l'alliance des droites avec à sa tête Giorgia Meloni, patronne du mouvement d'extrême droite Fratelli d'Italia. Ensuite, les résultats de ces élections pourraient avoir des répercussions sur la politique européenne et internationale dans un contexte de guerre en Ukraine, d'inflation et de crise énergétique. Alors pour répondre à ces nombreuses interrogations, nous avons le plaisir de recevoir le journaliste Paolo Levi, correspondant à Paris de l'agence italienne de presse ANSA. Bonjour Paolo Levi.
Bonjour, bonjour, merci de l'invitation, bonjour tout le monde.
Alors on est vraiment heureux de vous avoir avec nous, on est là un peu pour comprendre où va l'Italie aujourd'hui. Alors avant de revenir sur les élections du 25 septembre, Paolo, pourquoi cette majorité, cette union nationale emmenée par Mario Draghi a-t-elle implosé?
Écoutez, pour une question assez affligeante, c'est-à-dire le retour en grande pompe en Italie de la politique politicienne dans un contexte, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en train de vivre une période assez particulière de notre histoire européenne, après la pandémie, une guerre qui revient en force au cœur même de notre continent. Et donc le fait d'avoir brisé cette union nationale, cette unité qui était si nécessaire en cette période si trouble, est quelque chose qui inquiète aujourd'hui beaucoup, non seulement en Italie, mais en Europe. Mario Draghi était probablement la meilleure expression que notre pays pouvait produire pour nous mener à bien dans cette transition, dans cette période si difficile. Et aujourd'hui, la politique politicienne est revenue en force. La législature était sur le point de finir, mais il y avait encore une année devant nous avant les élections. Mais voilà, la crise a été voulue par Giuseppe Conte, qui était le leader du mouvement 5 étoiles populiste. La droite en a profité immédiatement et voilà. Et aujourd'hui, la chose assez curieuse, c'est le fait que personne dans les partis veut assumer la responsabilité de cette chute de Draghi, et tout le monde, chaque parti ensuite, quand on les interpelle singulièrement, ne font que dresser des louanges pour Draghi, mais le fait est assez ubuesque. On va voir dans les prochaines semaines ce que les électeurs vont dire. Les élections vont être le 25 septembre, dans 3 petites semaines, comme vous l'avez rappelé, et on va voir, mais la situation est certes assez inquiétante.
En plus, Mario Draghi est quand même quelqu'un qui est encore très populaire. Alors, on a du mal à comprendre. On voit bien qu'il y a un jeu politicien qui s'est fait. Mais est-ce que cette crise politique est aussi la conséquence de la guerre en Ukraine? Est-ce que la guerre en Ukraine a joué aussi sur cette crise ou pas du tout?
Mais écoutez, la guerre en Ukraine devait surtout jouer dans le sens qu'elle aurait dû, comme elle a fait pendant les derniers 18 mois, souder les Italiens autour d'une crise majeure et savoir qu'en ce moment, face à cette guerre qui nous dépasse, il fallait rester tous bien unis au niveau national et européen. Et il y a, parmi les forces politiques de centre-droit, certaines forces comme celle de Salvini qui ont des ambiguïtés par rapport à Poutine. Encore ce week-end, lors d'un grand meeting, lors d'une grande rencontre avec les industriels italiens, Salvini a critiqué fortement les sanctions qui ont été prises à l'encontre de la Russie en disant que c'est une sorte de balle dans le pied qu'on se tire, un petit peu le même discours que faisait Marine Le Pen en France. Et donc il y a certainement dans cette coalition de centre-droit des partis qui flirtent encore avec la Russie. C'est pas le cas de Giorgia Meloni, paradoxalement. La leader de Fratelli d'Italia qui a le vent en poupe dans les sondages, donc un parti certainement post-fasciste mais qui est en train de s'employer dans une œuvre de dédiabolisation, et ces dernières semaines, peut-être aussi pour rassurer la communauté internationale, elle ne fait que répéter, disons, ses convictions européennes, atlantistes et de soutien à l'Ukraine. Donc là déjà, il y a une première ligne de fracture très claire qui apparaît dans cette coalition de droite et d'extrême droite, c'est-à-dire que d'un côté, il y a le troublion Salvini qui flirte avec Poutine et de l'autre Meloni qui en revanche semble pour l'instant, je ne sais pas si c'est une posture électorale, mais pour l'instant elle semble, disons, se mettre dans un socle euro-atlantique traditionnel. Et après, troisième partie de la coalition, celui de Berlusconi, l'immortel de Forza Italia qui, selon les sondages, serait le obtiendrait le plus maigre résultat, au moins dans la coalition de droite, avec 8% des intentions de vote contre 13% pour Salvini et 24% pour Meloni.
Alors la question, c'est comment finalement vous expliquez que Fratelli d'Italia, hein, de Giorgia Meloni, fasse la course en tête dans les sondages, et aussi, on a parlé déjà de cette coalition, mais c'est vrai que cette coalition, si on la regarde au niveau européen, c'est-à-dire simplement au Parlement européen, on a une coalition qui est très divisée au Parlement européen. On a donc Forza Italia qui est dans le PPE, donc le Parti Populaire, la droite. On a le Fratelli d'Italia qui est dans un groupe proche des Polonais. Et on a la Ligue qui est, elle, avec l'extrême droite française, avec le Rassemblement national. Donc même politiquement, ils sont quand même très divisés.
Absolument. C'est vraiment un pacte d'intérêt électoral, éminemment électoral. Ils veulent rafler la mise, mais tout divise cette coalition. Et on le voit même, la chose paradoxale, c'est que par le passé, pendant les campagnes électorales, la droite arrivait beaucoup mieux que la gauche, d'ailleurs, à effacer les points de friction ou de division. Et là, même pendant la campagne, elles émergent de façon absolument claire, à la lumière du jour, chaque jour dans le débat qui est en cours ici en Italie. Ils sont divisés sur tous ces trois partis de la coalition de droite en Italie. Donc on se demande quand ils vont gagner, combien tout cela va durer. Mais malheureusement, la myopie aujourd'hui en Italie, en tout cas, c'est le fait de ne pas saisir l'ampleur de ce qu'on est en train de vivre. Il y a une vraie question existentielle pour notre avenir européen et pour l'Europe qui se joue aujourd'hui. Ouais. Et nos grands concurrents internationaux, grands acteurs globaux comme la Chine, la Russie, ne cachent plus, disons, leur ambition. Et le risque, c'est que dans 4-5 ans, les Italiens, et s'ils ne feront pas preuve d'unité dans le socle européen, auront qu'à choisir si devenir un pays satellite de la Chine, de la Russie ou des États-Unis. Mais il n'y a aucune raison que ce soit ainsi. Donc aujourd'hui, disons, Giorgia Meloni fait un discours nationaliste où elle met en exergue, disons, l'importance du patriotisme, etc. Mais ce qu'on aurait envie de lui dire, de lui suggérer, c'est qu'aujourd'hui, toute forme de patriotisme doit passer aussi par une dimension européenne, parce que sinon, tout seul, on se fera pulvériser par des grands blocs qui ne partagent pas nos valeurs. Aujourd'hui, c'est clair et certain. Et donc, il y a vraiment notre modèle de démocratie européenne qui est en jeu. Donc,
concrètement, quels sont les sujets de cette campagne? Parce qu'elle est très courte, cette campagne, finalement. Elle se passe pendant l'été, les gens sont principalement en vacances. C'est quoi les sujets de la campagne? On a aussi vu que Giorgia Meloni a utilisé un fait divers autour d'un viol pour attirer une forme de sujet autour de la sécurité. Mais quels sont les sujets de la campagne aujourd'hui en Italie?
Voilà, exactement. L'impression, c'est qu'on fait une campagne à minima sur des petites questions locales, de société, etc. Et quand, en fait, il y a des enjeux bien plus importants. Disons que la chose la plus importante aujourd'hui sur laquelle il faudrait débattre, c'est bien sûr la question énergétique. Le gouvernement Draghi, même s'il est en train maintenant aujourd'hui d'assurer seulement les affaires courantes, est en train de mettre en œuvre, mettre en sécurité, voilà, toute une série d'initiatives les prochains mois, parce que on risque de passer un hiver vraiment avec l'inflation, les prix de l'énergie, ils sont arrivés à des niveaux vertigineux, etc. Il faut absolument réduire le coût de l'énergie. Et après, il y a une autre grande question où il y a le fameux plan de relance européen, c'est-à-dire que tout était sur les rails et vous savez que l'Italie est le premier bénéficiaire.
Plus de 200 milliards d'euros.
Exactement. Ça. Et Giorgia Meloni aujourd'hui voudrait, elle demande de faire une révision, voilà, des plans déjà présentés par l'Italie à Bruxelles. Et là aussi, il y a des grandes questions d'inquiétude parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. L'Italie risque de perdre cet argent et c'est vraiment des financements qui sont vitaux aujourd'hui pour la tenue de notre pays. Donc voilà un grand thème dont on devrait débattre beaucoup plus et qui est, disons, quelque part mis un petit peu de côté. Mais comme d'habitude, en Italie, malheureusement, les forces politiques parlent au ventre, à l'estomac des personnes plutôt qu'à leur cerveau. Dans le sens que, voilà, aujourd'hui, la politique, au lieu de montrer la voie, donc de se poser en avant-garde par rapport au pays, elle cherche d'intercepter quels sont les états d'âme de la population et de flatter ces états d'âme.
Et la gauche là-dedans, alors ?
La gauche un peu moins, mais il y a quand même toujours cet esprit de suivre plutôt que de montrer un chemin. Disons que la gauche, malheureusement, est beaucoup plus fracturée que la droite, au moins, disons, dans les postures, dans le sens que d'un côté, il y a le Parti démocrate qui est le grand parti social-démocrate italien, dirigé par un ancien premier ministre, Enrico Letta, que les sondages donnent presque coude à coude avec Fratelli d'Italia de Meloni. Meloni, elle est créditée à 24% et le Parti démocrate actuellement, selon les dernières études, est à 22-23. Mais après ça, il y a plein de partis de gauche ou de centre-gauche, etc., comme celui de Calenda, qui est avec l'ancien premier ministre Renzi, qui ont décidé de ne pas s'unir avec l'État. Et donc, c'est tout un capital qui, quelque part, est éparpillé.
Le mouvement 5 étoiles avec Conte a l'air de remonter dans les sondages. Il semble que c'est le seul à faire un discours social, si j'ai bien suivi.
Oui, disons, c'est quelque chose d'absolument réel. Disons que leur drapeau, à ce parti-là, c'est ce qu'on appelle le reddito di cittadinanza, c'est-à-dire le revenu universel qui avait été la grande bataille du mouvement 5 étoiles lors des élections passées. Et c'est une réforme qui garantit, disons, une sorte de subvention à tous les Italiens qui en ont besoin et que la droite voudrait éliminer. Et donc, la crainte que cet argent ne puisse plus arriver dans les poches des Italiens fait en sorte que le mouvement 5 étoiles surtout dans le sud de l'Italie, est en train de gagner à nouveau du terrain après avoir touché, disons, le fond, parce qu'ils étaient vraiment bababa. Mais tout seul, en tout cas, avec la coalition de centre de droite, il n'y a aucune chance de faire de s'unir. À gauche, pareil, parce que le mouvement 5 étoiles est taxé d'être le grand responsable de la chute de Draghi, donc personne à gauche veut aujourd'hui faire une coalition avec eux, donc voilà, c'est vrai qu'il monte, mais il est tout seul, il est complètement tout seul. Il y a aussi chez Conte des positions assez ambiguës par rapport là aussi à la Russie, donc c'est un cavalier seul qui risque, voilà, de faire un bon score, mais de le rendre quelque part vain, parce que c'est pas qu'est-ce qu'ils vont faire après.
Alors, avant d'aller voir sur les répercussions, vous en avez déjà un peu parlé des répercussions européennes, s'il y avait une future élection de Giorgia Meloni et de cette coalition de droite, j'aimerais vous faire écouter son intervention qu'elle a faite plus pour les médias étrangers, pour les partenaires européens. On vous fait écouter juste sa réaction et on revient avec vous sur ce sujet.
Bonjour à tous. Je suis Giorgia Meloni, j'ai 45 ans et je suis la présidente de Fratelli d'Italia, le parti politique des conservateurs italiens. Depuis plusieurs jours, j'ai lu des articles dans la presse internationale sur les prochaines élections qui donneront à l'Italie un nouveau gouvernement, dans lesquelles je suis décrite comme un danger pour la démocratie, pour la stabilité italienne, européenne et internationale. J'ai lu que la victoire de Fratelli d'Italia aux élections de septembre conduirait à un désastre, à un tournant autoritaire, à la sortie de l'Italie de l'euro et à d'autres absurdités de ce genre. Rien de tout cela n'est vrai. Mais je sais très bien que ces articles sont inspirés par les puissants circuits médiatiques de la gauche, qui ici en Italie est très fort dans les rédactions de journaux et dans celle des programmes de télévision.
Alors, je rappelle que nous sommes avec Paolo Levi, qui est donc le correspondant à Paris de l'agence italienne de presse ANSA. Alors, sur ce sujet, on voit en plus donc qu'elle rassure, qu'elle dit qu'elle ne veut pas sortir de l'euro, mais elle met aussi en cause les médias. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Giorgia Meloni, déjà, qui est-elle vraiment et son parti? Et ensuite, est-ce qu'on doit se fier? Est-ce qu'il y a un risque? Comment vous voyez la chose?
Écoute, Giorgia Meloni, je pense que c'est une femme certainement brillante qui, à un certain moment, a compris qu'elle avait la possibilité de jouer un match bien plus important de ce qu'elle ne pensait. Donc, disons que historiquement, elle est née avec les fascistes. Elle a grandi dans le Fronte della Gioventù, c'est vraiment les jeunesses de l'extrême droite italienne, nostalgique du régime mussolinien et raciste, antisémite. Disons, on peut tracer le parallèle avec le Front National de Jean-Marie Le Pen. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen avait fait un copier-coller du symbole justement italien du mouvement social italien, qui était la flamme avec le drapeau italien et français, et donc ils ont le même symbole, donc elle vient de là.
On peut aussi rappeler que Marion Maréchal est mariée avec un membre de Fratelli d'Italia.
Oui, dans cette sorte de dynastie de feuilleton de l'extrême droite européenne, il y a aussi plein de liens qui se soudent, non seulement politiques, mais parfois aussi sentimentaux. Et Marion Maréchal Le Pen s'est mariée depuis peu avec un eurodéputé de Fratelli d'Italia. Ils ont même eu un enfant ensemble. Donc, disons que Giorgia Meloni, elle vient de là. Et récemment, elle a compris qu'elle devait vite se débarrasser quelque part de toute cette armementaire idéologique, parce qu'elle avait vraiment, elle a aujourd'hui vraiment la chance de passer quelque part dans la cour des grands, de devenir premier ministre et notamment premier première femme premier ministre en Italie. Donc, pendant cette campagne estivale folle à laquelle on a assisté, chaque jour, elle ne fait que qu'envoyer des messages pour rassurer les Italiens et pas que les Européens de cette sorte de conversion sur la voie de Damas. Aujourd'hui, elle est euro-atlantiste, elle fait des discours presque dégaspériens, quoi, dans le sens que. Mais ça, c'est surtout le risque, c'est que l'inquiétude, c'est que ce soit surtout une posture électorale. Parce qu'après, quand on va voir, il y a deux grands questionnements qui se posent. Premièrement, exactement comme chez Marine Le Pen, qui pendant des années cherche encore aujourd'hui de se dédiaboliser, il y a Marine Le Pen. Et après, derrière, il y a aussi besoin d'une classe dirigeante digne de ce nom. Et Meloni, exactement comme Le Pen, elle est seule, disons, dans cette œuvre de dédiabolisation. Parce qu'après, derrière elle, il y a un monde assez sombre qui reste, lui, très, très lié, disons, à des positions complètement hors sol et très, très inquiétantes, sinon nauséabondes par rapport à nostalgiques, etc. Donc, il faut faire la distinction entre le leader qui fait l'œuvre, disons, de maquillage politique d'un côté, comme Marine Le Pen en France, et ensuite ce qu'il y a derrière. Et le grand risque, c'est que quand on va gouverner un pays, on peut pas le gouverner tout seul, mais on a aussi besoin ensuite de ministres, d'une classe dirigeante qui soit en mesure. Et là, Meloni, elle a un vrai problème de ce point de vue-là. Après, quand on va voir le programme, c'est assez contradictoire, dans le sens que elle a beau nous vouloir nous répéter qu'elle est devenue soudainement europhile et tout cela, mais dans son programme, il y a encore aujourd'hui la volonté de faire une réforme assez inquiétante de notre Constitution qui réintroduirait dans la suprématie, la primauté du droit italien sur le droit européen, ce qui revient à faire un italexit sans le dire, parce que soit on est dans le club et on adhère, disons, au droit européen, comme tous les membres de l'Union européenne, soit on ne s'y soumet pas et alors on sort de l'Europe. C'est pas possible, c'est un peu contradictoire de vouloir, disons, assurer de rester à tout prix en Europe et en même temps de dire oui, je reste en Europe, mais le droit national va à nouveau avoir la primauté sur le droit européen. C'est pas possible. Il y a quelque chose.
On a eu le même type de débat aussi en France pendant les élections. Moi, je me posais aussi la question suivante. On a quand même une situation aussi économique de l'Italie qui est. Alors, je compare pas avec la France qui est pas dans une situation économique spécialement beaucoup meilleure, mais bon, l'Italie est quand même le pays le plus endetté de l'Union. Donc, faut-il craindre aussi par rapport à ça, comme une nouvelle crise de la dette parce qu'il y aurait plus de confiance dans le gouvernement en place ou aussi la désunion de l'Union européenne sur beaucoup de sujets comme celui sur la Russie. Est-ce que vous pensez qu'il faut craindre cela ?
Oui, il faut le craindre parce que justement pour cette fragilité de la dette italienne, on l'a vu par le passé, l'Italie a été toujours le maillon faible dans les moments de crise de la spéculation internationale. C'est-à-dire que à chaque fois que l'Italie a montré des signes de faiblesse, la spéculation internationale n'a pas hésité une seconde à attaquer l'Italie. Donc, on est vraiment très, très exposé de ce point de vue-là. Et Giorgia Meloni doit l'avoir compris parce qu'elle continue à répéter que pour elle, les clous budgétaires sont absolument à suivre et elle n'a aucune intention d'en sortir, contrairement aux autres partis de sa coalition, c'est-à-dire Forza Italia et Lega de Salvini, qui, eux, au contraire, voudraient voir filer la dette ultérieurement. Donc là aussi, il y a une énième contradiction très, très profonde entre les membres de cette coalition. Une troisième chose qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y avait une chance extraordinaire de changer le pacte de stabilité européen. On avait vu que Emmanuel Macron et Mario Draghi étaient à l'unisson dans ce chantier majeur qui pourrait vraiment changer la vie et le destin des citoyens européens et de l'Europe pour les prochaines décennies. Et malheureusement, on se demande si ce chantier-là, aujourd'hui, avec la fin de l'ère Draghi, peut encore voir le jour ou pas. Jusqu'à il y a encore quelques mois, il y avait de fortes chances que l'Italie plus France, qui était devenue une sorte de seule république, tellement la symbiose était forte entre les deux gouvernements, aurait pu changer aussi la donne et convaincre l'Allemagne de la nécessité, voilà, de trouver de nouveaux critères par rapport au traité de Maastricht, aux 3% de rapport entre déficit et PIB et sur la, le 60% de dette. Donc aujourd'hui, ce chantier majeur, qui est un chantier vital aussi pour l'avenir de l'Union européenne, pour qu'elle puisse voilà, avoir un avenir de croissance et pas seulement de rigueur, et remis en cause par ces élections italiennes. C'est pour ça que ces élections italiennes vont avoir un impact non seulement sur l'Italie, mais sur le destin du processus d'intégration communautaire.
On va suivre très, très minutieusement ces élections, parce qu'effectivement, comme vous le dites, et comme on a pu le voir avec vous, on aura un impact sur, pas que sur l'Italie, mais sur toute l'Europe. Alors, je vous avais proposé un choix musical, et comme beaucoup d'Italiens encore europhiles, même s'il y en a de moins en moins, vous avez choisi de que l'on termine cette émission par l'Ode à la joie. Pourquoi ce choix?
Parce que aujourd'hui, si nous, Européens, voulons espérer d'être encore joyeux dans un monde de brutes, voilà, on doit absolument miser. L'étoile polaire doit être celle de l'unité et surtout pas de la division. On a vu de façon très très claire et nette que des grandes puissances comme la Russie, comme la Chine, cherchent à tout prix de nous diviser. Il va y avoir bien une raison si elles cherchent de nous diviser. Et c'est, la raison est très simple, c'est que quand on est unis, on est les plus forts du monde. On a un modèle qui, bien qu'avec beaucoup de défauts, reste probablement un des plus grands projets démocratiques que l'histoire de l'homme ait jamais conçu. Donc il ne faut pas céder, surtout pas aujourd'hui, aux sirènes des nationalismes qui voudraient revenir en force, mais voilà, absolument croire en ce projet magnifique et au rêve européen, parce que c'est seulement unis qu'on fait la force. Et aujourd'hui, toute forme de patriotisme doit passer, en Europe, doit passer par une forme européen.
On va terminer sur ces paroles et en musique, donc en écoutant l'Ode à la joie. Il s'agit là de l'Orchestre Philharmonique de France qui avait joué l'Ode à la joie lors d'un 14 juillet. Donc on va terminer cette émission avec ça. Je voulais vous remercier, Paolo Levi, d'avoir été avec nous et de nous avoir consacré quand même beaucoup de temps pour répondre à toutes ces questions en français.
Merci beaucoup à vous, Olivier, merci.
On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission européenne. Thank you.